VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En RDC, tirs nourris ce lundi dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment près de la grande prison de Makala à Kinshasa, qui avait déjà été la cible d'une attaque en mai de cette année, ayant occasionné l'évasion de plus de 4000 détenus. Les avenues sont vides ici à Selambao, quartier populaire du centre de Kinshasa où est situé le pénitencier, et ça tire autour de la prison de Makala, a déclaré à l'AFP Emmanuel Cole, un militant des droits des prisonniers. Pour sa parole, le colonel Pierrot Rombo Mwanampuntu, porte-parole de la police congolaise, confirme qu'il se passe quelque chose du côté de Selambao et que les autorités cherchent à identifier le problème. Une source de la société civile fait état d'au moins 7 policiers tués et de 2 assaillants abattus par la police militaire. Ces incidents ont lieu alors que le pays traverse une grave crise politique due au maintien du président Joseph Kabila au pouvoir après l'expiration de son mandat en décembre 2016. Et RDC toujours, nouveaux affrontements meurtriers dans le sud-est du pays entre Bantous et Pygmées. La société civile parle de plus de 50 morts, mais ce bilan n'est pas confirmé de source officielle. Rosine Munizero.
Modeste Kamanzi, un responsable de la société civile de la province du Tanganyika, affirme que les affrontements dans le village de Lambo-Kilela, au nord-ouest de Kalemie, ont fait 55 morts, dont 45 Bantous. Le gouverneur provincial Ngoï Kitangala tempère ses propos et dit avoir envoyé une équipe sur place pour évaluer les dégâts et donner un bilan fiable. De nombreux heurts interviennent entre des Bantous Luba et des Pygmétois dans le nord du Katanga. 4 personnes ont été tuées la semaine dernière à un village brûlé. En septembre 2016, 4 Bantous ont été condamnés à 15 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Souvent considérés comme des citoyens de seconde zone, les Pygmées cherchent à faire reconnaître leurs droits et se heurtent souvent au refus de la majorité Bantou. En février dernier, un pacte de non-agression a été conclu sous la médiation de Kinshasa, des autorités locales et de la MONUSCO.
Au Cameroun, c'est ce week-end que s'est achevée après 4 jours la toute première édition du Festival des musiques et danses patrimoniales du pays. Organisé par le ministère des Arts et de la Culture, l'événement attire un grand nombre de visiteurs et de très populaires groupes de danse traditionnelle du Cameroun. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Le patrimoine culturel du Cameroun en matière de danse, musique et tenue traditionnelle a captivé un large public sur le site du musée national à Yaoundé. Au terme du festival, un sentiment de satisfaction générale. Professeur Raymond Assomban, directeur du musée national.
Il y a au moins 4000 personnes ici. Il fallait faire ceci pour que les Camerounais comprennent qu'ils sont un et indivisibles. L'unité dans la diversité. Et c'était donc l'objectif de ce festival.
L'unité des Camerounais dans la diversité culturelle, oui. Mais le festival a davantage été un rendez-vous pour se ressourcer aux valeurs traditionnelles pour plusieurs visiteurs du site du festival.
Il y a vraiment la manifestation culturelle d'un autre genre que nous ne vivons pas tous les jours.
Bah, je suis venu comme tout le monde pour découvrir le riche patrimoine camerounais. Et nous voyons de très bonnes choses. Et la culture camerounaise est extrêmement riche et elle mériterait à être bien connue.
Et je suis là avec mes enfants parce que eux doivent voir de quoi est constitué cet ADN. C'est l'ADN, c'est ce qui fait quelqu'un et c'est donc très important pour la vie.
Les jeunes Camerounais sont aussi venus découvrir le patrimoine culturel d'antan. Certains n'ont pas caché leur fascination au regard du riche trésor culturel mis à découvert à l'occasion.
On a vu beaucoup de danse. La danse des bêtises. De plusieurs groupes de danse.
C'est la première fois que tu découvres cette danse?
C'est la première fois. J'ai bien aimé.
Ce que le Cameroun compte de meilleur dans l'art de la sculpture, des instruments de musique ou de la confection de tenues traditionnelles de danse a aussi fait l'objet d'expositions durant le festival. Parmi les exposantes, une originaire du Nord-Ouest, en zone anglophone du Cameroun, Princesse Boutigny.
Vous voyez la plupart des objets ici, là, ça parle de la musique. De l'autre côté, vous voyez les colliers de plusieurs qualités et de plusieurs couleurs. C'est ce qu'on porte lors des festivals. Tous les sacs que vous voyez, on utilise ça pour aller dans les festivals. Vous pouvez regarder de l'autre côté, vous voyez les objets d'art. Vous voyez les femmes en train de taper, les hommes en train de taper, les sifflettes et les costumes traditionnels.
Au total, Les quatre aires culturelles du Cameroun ont été représentées au premier festival des danses et musiques patrimoniales, offrant un spectacle de soir au village, en pleine capitale, devant un public de citadins très admiratif. Emmanuel Jolutap, Yaoundé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Kenya, la population sera aux urnes demain pour des élections générales. La présidentielle est âprement disputée entre le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, et son grand rival, Raila Odinga. Le point avec Idriss Fall.
Quelque 19,6 millions d'électeurs doivent choisir leur président, gouverneur, sénateur, députés et élus locaux dans près de 41 000 bureaux de vote. Plus de 180 000 membres des forces de l'ordre seront déployés. Il y a 8 candidats à la magistrature suprême, dont les plus en vue, Uhuru Kenyatta, le président sortant, et son grand rival Raila Odinga. La campagne s'est déroulée dans un calme relatif jusqu'à l'assassinat d'un responsable informatique de la commission électorale. En 2013, une partie du système électronique s'était effondrée, alimentant les accusations de fraude dès l'annonce de la victoire au premier tour d'Uhuru Kenyatta. Le leader de l'opposition, qui se présente pour la quatrième fois, affirme s'être fait voler la victoire en 2007 et en 2013, il a rejeté les résultats avant leur validation par la Cour suprême. De nombreux Kenyans sont déjà rentrés dans leur village pour accomplir leurs devoirs citoyens, mais aussi par crainte de violence post-électorale comme en 2007 où il y a eu plus de 1000 morts.
En Côte d'Ivoire, célébration ce lundi du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans une allocution télévisée à la Nation dimanche, le président Alassane Ouattara a promis d'investir davantage dans les forces armées pour mettre fin aux troubles qui secouent le pays depuis le début de l'année. Un important travail de reprise en main de notre armée est plus que jamais nécessaire, a souligné le président Ouattara. La Côte d'Ivoire a été secouée depuis janvier par plusieurs mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée qui ont revendiqué et obtenu d'importants de primes pour mettre fin à leurs protestations. Le pays connaît aussi depuis plusieurs semaines une série de braquages contre des postes de police et de gendarmerie, attaques au cours desquelles armes et argent sont emportés par des hommes armés non identifiés. Au Bénin, depuis l'accession du président Patrice Talon au pouvoir, il y a eu notamment vote de déchéance contre des maires, remise en cause de l'élection de certains conseillers municipaux et tout dernièrement suspension du maire de Cotonou, Léa Dissoglo, fils de l'ex-président Nissofor Soglo, sur qui pèseraient de lourdes charges. Depuis vendredi, l'affaire Léa Dissoglo défraie la chronique, enflamme les réseaux sociaux et divise la classe politique béninoise, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
La suspension du maire intervient quelques heures après l'audition sans surata dans la nuit, une perquisition au domicile du maire. Et c'est là que les militants et autres acteurs politiques se sont emparés du dossier, appelant le peuple à barrer la voie au gouvernement qui voudrait brimer les droits et libertés d'un citoyen. Rosine Soglo, députée et maman du maire, s'en prend violemment au chef de l'État qu'elle accuse d'être en train de tirer les ficelles dans l'ombre.
Talon se trompe de personne, il se trompe de... C'est pas Léadi qui veut, c'est moi que Talon veut. Alors, qu'il vienne me chercher. Car qu'il ne lâchera pas mon fils, il mourra derrière lui, je le jure.
Le ministre de la Justice est monté au créneau le lendemain pour expliquer la situation.
Ce n'était pas une procédure d'arrestation. Nulle personne n'a été placée en garde à vue. Alors que les événements s'y prêtaient, les circonstances s'y prêtaient. Il s'agit d'une procédure d'enquête policière. Rien n'a été fait. Or, le code de procédure pénale du Bénin, nul n'a le droit de faire obstruction à une enquête.
Actuellement, le maire reste introuvable et son fauteuil est déjà occupé par son intérimaire qui pourrait lui céder la place dans 2 mois au cas où le Conseil des ministres n'aura pas décidé de sa révocation telle que prévue par la loi. Il faut signaler que le maire a eu droit à plusieurs audits et qu'il est accusé d'avoir mal géré les ressources financières de la mairie. Tous les regards sont tournés vers la justice qui se doit de trancher cette affaire dans laquelle le maire et sa famille clament innocence. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Pour terminer, crise migratoire, au moins 187 migrants sont parvenus à entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta au nord du Maroc en s'engouffrant à toute vitesse au petit matin aujourd'hui dans le poste frontière à l'entrée de la ville. Ce sprint a surpris les agents espagnols qui débordés n'ont pas pu appréhender les coureurs. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la préfecture de l'enclave espagnole. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.